Studio Tamani, voici nos informations en français.
Exactement 8h à Bamako, c'est l'heure de la matinale de Studio Tamani. Mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres de ce journal. Les prix de certaines denrées alimentaires n'ont toujours pas connu de baisse malgré les dispositions annoncées par le gouvernement. Des commerçants ont tout simplement cessé de vendre certaines denrées. Des logements sociaux de Tabakoro sur la route de Nyamana ne sont toujours pas habités. Une situation que dénonce la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux. Elle demande au service de tutelle une solution rapide. La région de Banjagera va bientôt bénéficier d'infrastructures hydrauliques et d'assainissement. Un projet pour la réalisation de ces infrastructures a été lancé la semaine dernière. Pour la population, l'initiative vient à point nommé. Voilà pour le titre, le développement dans un instant avec Sekou Gadjigo. À la mise en onde de Mamadi Keïta, malgré les dispositions prises par le gouvernement, les prix des denrées alimentaires restent intacts. Selon le sac de sucre de 50 kg, est cédé entre 35 000 francs et 37 500 francs CFA chez les grossistes. À cause de cette cherté des sanctions prévues par le gouvernement, certains commerçants ont tout simplement cessé de vendre certaines denrées. Ils exhortent les autorités à résoudre le problème à la source. Le reportage de Aboubakrine Ag Mohamedine Yattara.
Après la décision du gouvernement de faire respecter les prix fixés, il est difficile de trouver du sucre ce mardi dans certaines boutiques à Bamako. Pour plusieurs grossistes, cette situation se redit à la cherté de cette denrée et l'incapacité de certains revendeurs à respecter les prix plafond.
Bon, moi-même, je cherche même de vendre du sucre parce que ça ne va pas aller. Si on a un sac de sucre à 35 000, comment on va vendre ça? Alors que les autorités veulent que nous vendent ça à 600 francs le kilo. C'est pas si difficile. Si tu calcules là, un sac de sucre, il y a 50 kilos dedans. 600 fois 50, ça donne 30 000. Okay. C'est pour cela qu'on a même cessé de vendre du sucre. Parce que je ne vois aucune importance.
D'autres commerçants, sous le coup de la sanction, dénoncent cette situation qu'ils jugent injuste. Car ils expliquent que le prix d'achat de ces produits est supérieur à celui fixé par le gouvernement.
Nous avons pris d'huile du Nord 25 000 au marché. Ça ici 26 000, mais ils nous demandaient de vendre ça à 24 000. C'est impossible de nous faire payer 50 000. La bonne solution, c'est qu'ils devraient taper en haut d'abord. Ils connaissaient là où nous on prenait les produits. Ils devraient taper là-bas. S'ils criaient au marché maintenant, on ne peut pas prendre et vendre ça à combien? 600, ils ont dit. On ne peut pas.
À rappeler que le gouvernement exige des importateurs le respect des prix plafonds, c'était ce dimanche 7 août 2022 lors d'un conseil des ministres extraordinaire.
Cette hausse des prix n'épargne pas non plus la cola, le panier qui était auparavant cédé à 60 000 francs est aujourd'hui vendu à 110 000 francs CFA, témoignent des commerçants au grand marché de Bamako. Pour eux, cette hausse de prix de la cola s'explique par la mauvaise récolte du produit dans les localités d'exploitation. Toutefois, ils demandent aux importateurs de revoir la situation pour diminuer les prix. Hamza Doumbia, commerçant grossiste de cola à Bamako, nous donne quelques explications au micro de Sita Sidibé.
On peut acheter ça à 110 000 actuellement. Parce que avant on achète cola 60 000, 50 000. Pas dépasser ça. Mais actuellement, le cola est très cher parce qu'il y avait une façon de cola qui est sous-sous, qui n'est pas reçue. C'est pour cela que le cola est cher. On vend le kilo maintenant 2500. Actuellement, c'est très cher parce que les gens n'est pas habitués de ça. Avant, les gens achètent le cola 1250, 1500. Bon, c'est très difficile pour nous maintenant. Donc, je veux que les gens nous comprennent pour cela. Sinon, c'est pas à cause d'embargo ou des sanctions, c'est pas ça. Même dans l'embargo, on achète le cola à 60 000.
Restons dans les marchés en cette période hivernale. Il est difficile de se rendre dans ces endroits à cause du manque d'hygiène. Pourtant, certains marchés sont des exceptions. Dans ce sens, c'est le cas du marché Alaminesugu et de celui de Sugukura de Dar Salaam. Ces lieux sont propres et les conditions d'hygiène sont respectées. Mamadou Di Marisisoko a fait un tour pour nous dans ces marchés.
Le marché Alaminesugu de Manyambougou dans la commune 6 est une parfaite illustration du marché propre. Ici, l'hygiène est au rendez-vous. C'est un service d'hygiène qui est chargé de la propriété, expliquent certaines vendeuses.
Notre marché est propre, raison pour laquelle les clients viennent.
On aime la propreté. Les condiments doivent être mis dans un endroit sain. On a un service de nettoyage qui s'occupe de l'entretien du marché. En même temps, on contribue à ce que les marchés soient propres.
La clientèle aussi exprime sa satisfaction. D'après elle, il est bien possible de faire ses achats sans se salir, même après la pluie.
En cette période d'hivernage, je viens faire mes achats sans être sali.
Je suis contente parce que le marché est propre.
Les aliments sont propres et les marchés en même temps.
Qui parle de santé, parle d'hygiène.
Même s'il pleut, on peut faire tranquillement ses courses.
Cependant, la commission de gestion du marché dénonce des désagréments. Pour la présidente Zeynab Sen, le voisinage commence à salir les lieux. D'après elle, aucune habitation ne doit être construite aux alentours du marché.
Cet endroit est une zone commerciale, mais on constate que les gens construisent des logements au lieu des magasins, ce qui n'est pas normal. Le pire dans tout ça, ces maisons n'ont pas de poubelles ni de toilettes. Les gens qui vivent dans ces logements déversent leurs ordures dans les marchés.
À quelques kilomètres de là, se situe le marché Sugukura de Dar es Salaam. Il est aussi l'un des marchés propres de la rive gauche. Cependant, il serait nouveau selon les vendeuses, ce qui explique le peu de mobilité que connaissent ces marchés.
On est confronté à un problème de clientèle. Les clients ne viennent pas parce qu'ils ne connaissent pas ce marché.
Vraiment, on souffre dans ce marché. Les clients ne viennent pas.
Les usagers de ces différents marchés invitent les autorités communales à aussi s'impliquer en faveur des marchés propres.
Le reportage signé Mamadou Di Marie Sissoko. 8h passées de 6 minutes, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La Cour constitutionnelle et la société civile échangent depuis ce mardi sur l'organisation des élections au Mali. Selon le président de l'institution, cette rencontre vise à mieux faire connaître la Cour constitutionnelle et ses rôles à la société civile afin de créer une synergie pour des élections réussies. La rencontre qui a eu lieu ce mardi à Bamako était placée sous le thème « Juge électoral et la société civile ». Quelle complémentarité pour des élections réussi au Mali. Plus de détails avec Lalé Tangara.
En prélude aux futures élections annoncées en 2023, la Cour constitutionnelle et la société civile entendent s'organiser pour un processus électoral inclusif. Amadou Ousmane Touré, président de la Cour constitutionnelle.
C'est de faire connaître la Cour constitutionnelle, créer des liens de collaboration, de complémentarité entre la Cour constitutionnelle et la société civile pour faciliter un dialogue institutionnel afin de parvenir à des élections réussies.
La société civile, de son côté, apprécie l'initiative de la Cour constitutionnelle et souhaite sa continuité, car elle avait longtemps demandé à la Cour constitutionnelle de s'ouvrir aux populations pour une meilleure compréhension des textes. Docteur Ibrahim Asango, membre de la société civile.
La Cour constitutionnelle, depuis qu'elle a été créée en 1997, jusqu'à présent, elle n'a pas fait une communication comme ça.
Aujourd'hui, on est en train de parler des réformes constitutionnelles. On pense qu'il faut que cela change, que le simple citoyen puisse saisir la Cour constitutionnelle par rapport à la conduite des affaires publiques. Et ça, c'est une attente forte des organisations de la société civile.
À la fin de ces échanges, un cadre sera mis en place. Il sera l'interlocuteur de la Cour constitutionnelle avec lequel elle va travailler sur les textes.
Je vous le disais dans les titres, la Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux dénonce la non-occupation de certains logements déjà attribués. Elle l'a fait savoir au cours d'une point de presse hier mardi 9 août. La fédération exige donc des autorités compétentes une solution rapide. Dramane Maïga s'est rendu à Tabakoro pour en savoir plus. Voici son reportage.
La quiétude ne règne plus aux logements sociaux d'Ntabakoro non loin de Niamana. C'est du moins ce qu'estiment certains habitants de la dite localité. Maïmouna Sissoko, habitante à Niamana, témoigne.
Ma voisine a été attaquée par des jeunes armés. Ils l'ont dépouillée de tout ce qu'elle avait. Même dans notre rue, il y a plusieurs maisons inhabitées. Si ceux qui ont bénéficié de ces maisons ne veulent pas venir, ils n'ont qu'à attribuer ces logements aux personnes qui en ont besoin.
Pour la Fédération des bénéficiaires et demandeurs des logements sociaux, cette situation aura trop duré et risque d'engendrer d'autres problèmes. Bourama Gimbala Sibi, président de la fédération.
Nous avons approché le département ministre de l'urbanisme et de l'habitat à plusieurs reprises sans succès. Il faudra laisser le soin aux bénéficiaires de venir occuper les logements pour la sécurité des habitants.
La fédération manifeste également contre l'occupation anarchique des voies d'accès du quartier.
Autre titre de ce journal, plusieurs infrastructures hydrauliques et d'assainissement seront bientôt réalisées dans plusieurs communes de la région de Bandiagara. Le lancement du projet de réalisation de ces infrastructures a été fait jeudi dernier 4 août à la Maison des Jeunes de Bandiagara. Ces infrastructures visent à soulager les populations de ces localités en matière d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Selon les autorités, elles sont financées par le Fonds Canada BMZ et le Fonds Climat Mali. Le compte-rendu de notre correspondant à Bandiagara, Adama Djigiba.
Région nouvellement créée, Bandiagara est confrontée à un déficit en matière d'accès à l'eau potable. La réalisation de ces infrastructures revient donc à point nommé, nous dit Alkassoum Asseid Maïga, conseiller aux affaires économiques du gouverneur de Bandiagara.
L'eau potable pose énormément de problèmes du point de vue nappe phréatique qui est très profond, du point de vue réservoir d'eau qui est très profond, du point de vue relief édaphique et ressources édaphiques très très profondes, ce qui fait que ce n'est pas du tout facile de trouver l'eau en quantité abondante.
Les populations locales saluent l'annonce de la réalisation de ces infrastructures. Pour le premier adjoint au maire de Koro, ce projet va réduire considérablement les pénuries d'eau récurrentes, mais aussi les risques de maladies. Moussa Sagara, premier adjoint au maire de Koro.
Nous avons vécu 6 mois de pénuries d'eau, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, et aussi les maladies liées à l'eau, comme le paludisme, la fièvre. Quand même, ce projet est la bienvenue, surtout l'eau, hygiène, assainissement.
Il faut noter que ce projet prévoit en 3 ans la réalisation de 6 nouvelles addictions d'eau sommaire communautaire, la réalisation de 5 addictions d'eau, la transformation d'une pompe à motricité humaine en addiction d'eau sommaire. Aussi, des ouvrages d'assainissement et d'hygiène devront être réalisés dans 12 écoles des cercles de Bandiagara. Bankas Koro, c'était depuis Bandiagara, Adama Djigiba pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité à travers le pays en quelques brèves. À Djimekourou, commune rurale de Gounfon, cercle de Bafoulabé, le corps d'un quadragénaire a été repêché lundi dernier dans le marigot du village. Selon des sources locales, la victime serait un déficient mental. Elle se serait noyée lorsqu'elle tentait de traverser le cours d'eau la nuit. Tôt le matin, un pêcheur l'a trouvée inerte. Sa chemise couvrait sa tête. Le pêcheur a aussitôt informé le chef de village qui, à son tour, a informé le maire et la brigade. Ne possédant aucune pièce d'identité, il n'a pas pu être identifié. Sur instruction de la brigade, son enterrement a eu lieu au bord du marigot. Les 8 villages autour de la mine d'or de Sadiola dans le cercle de Kai ont été sillonnés par la directrice générale du business service de la société d'exploitation de la mine d'or de Sadiola. C'était samedi dernier, 6 août. Il s'agissait pour les responsables de la mine d'échanger avec les populations de ces villages dans le but de renforcer la confiance. Les chefs de village ont salué l'initiative. 25 tonnes, c'est la quantité d'engrais reçue le week-end dernier par le secteur d'agriculture de Yorosso. La distribution de cette quantité jugée insuffisante a commencé hier mardi. Selon le chef secteur d'agriculture, cette quantité sera distribuée seulement dans la ville de Yorosso. Les autres communes doivent attendre une prochaine arrivée les semaines à venir. Ces intrants arrivent à un moment où des paysans sont inquiets à cause de la non-disponibilité de l'engrais subventionné. 8h14, c'est la fin de ce journal que vous pouvez réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Mamadi Keita a assuré la mise en onde. Sekou Gadigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. Aïssata Diarra sera là tout de suite pour la version Bambara de cette édition. Plusieurs cas d'arrestation sont récemment constatés au Mali pour diverses raisons. Pourtant, les juristes estiment que ces arrestations doivent répondre à des principes judiciaires et doivent se faire dans un cadre légal. À défaut, elles seront considérées comme des arrestations arbitraires, préviennent-ils. Quand est-ce qu'une arrestation est dite arbitraire? Quelles sont les normes d'une garde à vue? Mamadou Guissé, juriste, répond aux questions d'Aïssata Diarra.
S'agissant d'une arrestation arbitraire, il faudrait premièrement que certaines conditions soient réunies, notamment par rapport à l'autorité qui a commandité ou qui exécute cette arrestation. Deuxièmement, par rapport aux motivations de cette arrestation. Et troisièmement, par rapport à la finalité de cette arrestation. Il faut qu'il soit une autorité légalement instituée, investi du pouvoir et des compétences nécessaires pour procéder à l'arrestation. Que dans le cas du Mali, la loi n'autorise à procéder à des arrestations qu'à un certain nombre d'organes, notamment aux forces de sécurité, le juge et, dans certains cas, à un certain nombre d'officiers de police judiciaire investis de ce pouvoir. Mais cette arrestation doit se focaliser dans un cadre précis. Et il s'agit de l'existence, ou en tout cas du soupçon de l'existence d'un trouble à l'ordre public. Et c'est seulement dans ce cas que la loi impose aux autorités de prendre des mesures préventives pour contrer à la violation de l'ordre public. Il s'agit de voir exactement la finalité de cette arrestation. Est-ce que c'est dans le cadre légal, donc juridique, ou c'est dans un cadre politique ou en tout cas quelconque qui n'entre pas dans le cadre de cette arrestation légale, juridique et judiciaire.
Alors, mais le fait de filmer les arrestations, est-ce que c'est normal là, selon la loi?
Il faut que cela soit absolument intervenu dans un cadre réglementaire. Êtes-vous journaliste? Êtes-vous habilité par une quelconque autorité à procéder à ce filmage? Ou avez-vous d'autres compétences qui vous autorisent à filmer? En prenant sur soi la décision de filmer ou de photographier une intervention policière ou violer par vous-même le droit à l'image et ceci peut se retourner contre vous.
Alors, quelles sont les normes d'une garde à vue?
Légalement, elle est de 48 heures. Au-delà de 48 heures, la garde à vue devient illégale, sauf si a fait l'objet de prorogation sur demande de l'officier de police judiciaire et cela avec des preuves bien tangibles de 24 heures.
Donc, elle n'est pas synonyme d'emprisonnement?
En principe, la garde à vue n'est pas un emprisonnement. L'emprisonnement doit être précédé d'un acte qu'on appelle un mandat de dépôt. L'emprisonnement doit être différencié de la détention provisoire avec l'emprisonnement détention provisoire. On l'appelle avant la détention préventive parce que c'était pour prévenir quelque chose.